partie 3 de la trilogie de Philémon. Il y a des choses qui sont difficiles à trouver. Mes sandales, je les perds tout le temps. Pourtant, je les mets toujours au même endroit à côté de ma peau de chameau. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu tout le temps. Je ne les retrouve pas. Vous savez, j'ai un exemple moi-même, Philémon, de perdu et retrouvé. J'étais un gars qui avait pas nécessairement une mauvaise vie. C'était quelqu'un qui, généralement, était bien, qui prenait soin des gens autour de lui. J'étais en affaires et puis, à un moment donné, j'ai eu un message qui venait à mes oreilles que j'étais perdu. Que même si j'étais un bon gars, même si je faisais des bonnes choses, le péché, ces mauvaises actions que je commettais devant Dieu, faisaient de moi quelqu'un qui était perdu. Quand j'ai compris la rédemption, quand j'ai compris ce que Jésus était venu faire pour moi, j'ai compris que j'étais perdu. Puis quand on est perdu, j'ai compris que j'étais séparé de lui. Qu'à cause de cette perdition, que j'étais séparé du Dieu créateur, de ce Dieu que j'avais entendu parler souvent, je me suis dit, c'est impossible pour moi d'être réconcilié. Mais j'ai compris que Jésus était venu me chercher. J'ai compris que Jésus était le bon berger. Celui qui pouvait sauver mon âme. Celui qui pouvait me racheter de mes péchés. Quand j'ai compris que je pouvais être réconcilié avec Dieu, je me suis repenti de mes péchés. Dieu m'a sauvé. J'ai compris et j'ai goûté c'était quoi que d'être réconcilié. J'étais ennemi de Dieu. Et j'ai goûté cette réconciliation-là avec mon Dieu créateur, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris que mes mérites que j'avais avant me donnaient aucune garantie devant lui, que mes bonnes actions, mes œuvres ne changeaient à rien. Mais j'ai compris la croix, son pardon. J'ai compris qu'il voulait me sauver. Puis ça, ce que ça a changé dans ma vie, ça a changé toute ma vie. Ça a changé toutes mes relations. Ça a changé ma façon de voir la vie. Parce que maintenant, je connaissais, j'avais une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça a changé ma façon de traiter mes semblables. Et ma vie, je voulais qu'elle ressemble à celui de mon Sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ. Je voulais lui ressembler. Vous savez, il y a des choses difficiles à trouver. Puis j'en sais quelque chose. Onésime. Mon serviteur, que j'avais pris soin de lui pendant plusieurs années. C'était un esclave qu'il y avait chez moi, puis j'en prenais soin, je lui donnais tout ce qu'il avait de besoin, puis un jour, il m'a volé. Il m'a trahi. Il m'a lésé. Puis il s'est sauvé avec mon bien. Ça m'a coûté de quoi? Un esclave qui se sauve comme ça, bon, oui, à l'époque où on est, à l'Empire romain, ça arrive. Puis l'État va nous aider un peu. Il y a même des agences privées qui nous aident à retrouver nos esclaves en fuite. Mais j'ai pas pensé que ça m'arriverait à moi. À être trahi par un esclave que j'aimais, qui m'était utile. C'était d'ailleurs le sens de son nom, Onésime, qui veut dire utile. Mais il s'est sauvé en volant mon bien. Il m'a trahi. Et je l'ai cherché partout. J'ai mis des affiches. L'avez-vous vu? Récompense. Mais il se produisait de quoi dans mon cœur? Que je devais faire attention. Si j'étais à la recherche de cet esclave en fuite, je devais faire attention de ne pas perdre ce que Jésus voulait que je lui ressemble. Je ne devais pas perdre ce témoignage que Dieu veut vivre en moi à cause de cette haine, à cause de cette frustration. À cause de cette colère que je pouvais vivre. Dieu veut que je lui ressemble. Un jour, j'entends frapper à la porte. Je vais répondre. Puis qui c'est que je vois pas? Le petit Judas. Onésime! Mais aussitôt je rouvre la porte, il me tend une lettre qui me place devant mes yeux. Puis à la vue de cette lettre-là, j'ai remarqué que c'était mon ami Paul qui l'avait signée. Cet apôtre qui est cher à mon cœur, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même m'a partagé ce message. Avant de prendre Onésime par le collet, j'ai pris le temps de lire la lettre. Philémon est un homme qui a été trompé, qui s'est fait trahir, qui a vécu la blessure d'un homme qui était avec lui, sous son toit, qui avait fort probablement pris soin, puis qui s'était fait léser par cet homme-là. Maintenant, à travers l'épisode de Philémon, je crois que chacun d'entre nous, en tant que croyant, on a des leçons à tirer pour nos propres vies. Ressembler à Jésus-Christ, ça veut dire quoi au jour le jour? Il y a des périodes dans nos vies où ressembler à Jésus, ça peut être facile. On n'est pas nécessairement éprouvé, on n'est pas nécessairement troublé. Et puis d'avoir ce caractère qui lui ressemble peut être relativement facile. Mais qu'en est-il quand que je suis trompé, quand je suis lésé, quand je suis trahi, quand que quelque chose qui me vient me faire mal? Qu'en est-il de ce moment-là à ma ressemblance à Jésus-Christ? Dieu veut qu'on lui ressemble. Jésus veut qu'on lui ressemble. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin à travers l'exemple de Philémon. Que chacun d'entre nous, quand toute circonstance, et bien particulièrement dans ces circonstances-là, souffrantes, difficiles, qu'on a à ressembler à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Que Dieu vienne disposer nos cœurs, nos têtes, à ce qu'il va nous enseigner. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer parce que tu es notre Créateur, tu es le Dieu de l'univers et on a ce merveilleux privilège par la rédemption de nos péchés, par la foi qu'on peut placer en ce sacrifice que tu nous as donné à travers Jésus-Christ, avoir la rédemption de nos péchés. On a ce merveilleux privilège que de t'appeler Papa. On veut te connaître. On veut ouvrir ta parole ce matin et que pour cet épisode qui s'est passé il y a plusieurs années avec Philémon, tu nous donnes les mêmes leçons pour nous aujourd'hui. Seigneur, viens disposer nos cœurs, nos têtes. Tu veux qu'on te ressemble? Viens mettre le doigt dans nos vies, chacun d'entre nous à travers ton esprit, pour nous montrer c'est quoi que tu veux que l'on change. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Troisième partie de la trilogie de Philémon, tome 1. Tends la joue. Le tome 1 commence comme ça. Tends la joue. Est-ce que vous avez déjà été trompé, trahi, lésé? Est-ce qu'on vous a déjà frappé sur une joue? Je pense que cet enseignement de Jésus qui dit quand on te frappe sur une joue symbolise tous ces événements où on peut avoir été trahi, où on peut avoir été offensé par une personne qui nous a frappé, qui nous a fait mal, qui nous a lésé, qui nous a trompé. Jésus nous enseigne tant l'autre joue. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas très naturel de tendre l'autre joue. Parce que généralement, on a envie de se dire, là, je vais ressembler à Jésus, mais un petit peu plus tard. J'ai plutôt envie de ressembler à ce que j'ai envie de ressembler, puis à ce que le monde me montre comment est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Le combat, il est difficile à ce moment-là. De tendre l'autre joue. Oui, c'est quelque chose de pas très naturel. Ressembler à Jésus quand tu te fais tromper ou léser. Regardez avec moi dans Philémon. Vous avez compris que c'est dans Philémon ce matin qu'on va lire. Regardez les versets 8 à 12 avec moi. Tendre l'autre joue est quelque chose de pas nécessairement très naturel, mais voilà un enseignement que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, qui nous emmène à lui ressembler, à ressembler à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Philémon, vous comprendrez que c'est chapitre 1. On va lire les versets 8 à 12. Notre focus est sur le personnage de Philémon. Okay? On a vu dans un premier épisode Onésime, ensuite Paul, et maintenant on est en train de voir Philémon. Verset 8 à 12 dit, « C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, est de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Paul est un apôtre. Il y a une forme d'autorité sur les saints qui sont là à cette époque-là. Et Paul est en train de dire, je pourrais te prescrire, oui, en utilisant une forme d'autorité apostolique, de dire, là maintenant, tu vas accueillir Onésime, puis tu ne vas pas lui fermer tes entrailles, puis voici ce que tu dois faire. Mais Paul est en train d'amener Philémon à dire, je ne veux pas te contraindre à faire quelque chose. Je veux que cet accueil que tu vas avoir envers Onésime, que ça vienne d'une motivation de ton cœur. Que ça vienne d'un amour. C'est au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Regardez le verset 10. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Cet homme-là que je te renvoie, Philémon, il a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur. Il ne revient pas dans le même état qu'il t'a quitté. Oui, il t'a été inutile pendant plusieurs temps, mais maintenant, il revient à toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Philémon, de cet homme qui t'a trahi, qui t'a lésé, qui t'a fait du mal? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas lui ouvrir ta porte? Je te le renvoie, verset 12. Lui, une partie de moi-même. Regardez le verset 18, on va lire le verset 18 pour compléter ce contexte-là. Il dit, « S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » On va revenir un petit peu plus tard sur ce verset-là, mais Paul comprend bien que Philémon a reçu des torts de la part d'Onésime. Onésime a agi en mal à l'égard de Philémon, et Philémon est en tort et blessé. Il devait avoir confiance en Onésime. Mais là, maintenant, il était blessé. Comment ressembler à Jésus dans ces conditions-là? Quand on a été blessé? Comment Philémon, maintenant, qui est devant son serviteur qui lui revient, devait témoigner qu'il ressemblait à Jésus-Christ? Tendre l'autre joue. Être tolérant à son égard. Se faire tromper ou se faire léser. Ça arrive. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Peut-être que ça vous arrive présentement que vous êtes dans une situation où vous êtes blessé. Puis peut-être que ça va arriver. Jésus disait, dans Luc 17, je vais juste vous le citer, Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges ou des scandales, mais malheur à celui qui en est responsable. » Matthieu 18, 7, il dit, « Malheur au monde à cause des pièges. » Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Oui, il y en aura des scandales. Ces scandales, c'est ces pièges où on tombe, où on est trompé, on est lésé, on est trahi. Qu'est-ce que ça fait naître en nous? Quand je me fais frapper sur une joue, naturellement, c'est quoi le sentiment qui monte en moi? C'est le désir de vengeance. C'est pour ça que Jésus a donné cet enseignement-là qui va bien contraire à notre propre nature qui monte à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est trompé, quand on a été lésé? C'est de se venger. C'est de frapper l'autre joue. Mais pas sa propre joue, mais l'autre joue de l'autre. La joue de l'autre, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est le désir de vengeance qu'on a. Qu'est-ce que je fais quand je me fais couper là en auto? Bien, j'ai envie d'aller le recouper. ou quand je me fais dépasser, j'ai envie de redépasser. On a envie de reproduire la même action que ce qu'on s'est fait faire. Parce qu'on est blessé, puis on a envie que l'autre vive la même souffrance. Tendre l'autre joue, c'est ce que Dieu me donne comme précepte pour lui ressembler. On peut réagir comme le monde nous enseigne. Mais est-ce que c'est au monde qu'on veut ressembler? Non. On peut agir comme ce que Jésus a agi. Est-ce que c'est à Jésus qu'on veut ressembler? Jésus s'est fait frapper sur la joue. Jésus a reçu des injures, a été battu, puis vous connaissez qu'il a été mort même jusqu'à la croix. Mais il n'a pas rendu injure pour injure. Il a accepté le préjudice. Heureusement pour notre propre salut. Tournez avec moi dans 1 Pierre 4. Tendre l'autre joue, c'est quand vient ce désir de vengeance au moment où j'ai été trompé, j'ai été lésé, ça me donne l'occasion de ressembler à Jésus. Dans un moment précis de douleur où j'ai l'occasion de dire, je ne vais pas me venger, mais je vais plutôt agir avec tolérance, avec amour. 1 Pierre 4, on va lire les versets 1 à 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Voici comment le monde agit. Voici comment le monde même, ils vont vous calomnier parce que vous ne voulez pas leur ressembler. Comment le monde va vous dire, ben voyons donc, tendre l'autre joue. C'est la pensée de Christ. Armez-vous de cette même pensée que Pierre il nous dit. S'armer de la même pensée. Je vais juste relire le verset 11. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand on choisit de lutter contre la tentation, contre ce désir de vengeance, on lutte contre le péché. On en a fini avec le péché. Ce désir de vengeance n'est certainement pas une réaction convenable et qui nous emmène à ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Tome 1, tends la joue. Tome 2, tends la main. On voit des fois dans notre société, puis de toute société, ce geste où on tend la main en signe d'accueil. On pourrait le voir comme ça. Ou par exemple, deux grandes nations qui ont été longtemps en guerre, en chicane, etc., et que là, on a ce fameux symbole de réconciliation ou de paix. Et là, on a, par exemple, le président américain qui est posé en arrière, et là, on a les deux autres présidents qui se serrent la main pour montrer que, OK, on arrête là. On se serre la main. Philémon, il est amené à accueillir Onésime. Il aurait pu le rejeter. Il aurait pu lui fermer la porte tout de suite à l'entrée, envoyer des gardes pour aller le chercher puis le punir. Mais maintenant, il est au point, qu'est-ce que je vais faire avec? Tends la main. Ressembler à Jésus quand vient le temps d'accueillir. Regardez versets 1 et 2 si on revient dans Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Philémon est un gars accueillant. On vient de le voir. Il a ouvert sa maison pour accueillir les croyants de la ville de Colosse. Dans la ville de Colosse, ces croyants-là, ces chrétiens-là, se rassemblaient dans une maison qui était la maison de Philémon. Et il y avait déjà cette vertu-là, en quelque sorte, Philémon, d'être un homme accueillant, hospitalier. Comment est-ce qu'il allait agir avec Onésime maintenant? Regardez verset 5. Verset 7. « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Philémon est un homme qui avait un témoignage d'amour, un témoignage où il rendait service, où il montrait certainement de l'accueil envers son prochain. Regardez le verset 22. En même temps, Paul, il termine sa lettre qu'il est en train de lui adresser. Il dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Paul, il compte même sur Philémon pour avoir cet accueil-là. Et il le sait qu'il va l'avoir parce qu'il dit, « Prépare-moi un logement. » Philémon est un gars qui, d'ordre général, accueille les gens. Comment est-ce qu'il allait agir avec Onésime? Regardez à partir du verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Accueille-le. Reçois-le comme moi-même. Recevoir comme un frère dans le Seigneur, c'est quoi qui nous empêche à accueillir notre prochain? Parce que dans notre société, et encore pour nous aujourd'hui, dans notre vie, il y a encore des éléments qui nous empêchent d'être accueillants. Le passé d'une personne, eh boy, je me tiens loin. L'âge des personnes, des fois, peut faire en sorte que je vais être moins porté à accueillir. La couleur de peau d'une personne peut même, dans notre société, amener à ne pas avoir cet accueil-là. Les pensées qui sont différentes, nos valeurs qui sont différentes, nos convictions qui sont différentes, hein, on pourrait en trouver plein de bonnes raisons pour ne pas être accueillant. Des fois, on chante à Dieu, tel que je suis, je viens à toi. Comment Dieu est accueillant, lui? Comment ressembler à Dieu dans notre accueil? Peut-être même qu'on pourrait avoir peur de dire, je ne veux pas m'accueillir une personne parce que je ne voudrais pas qu'elle ait l'impression que j'accepte son péché. On peut venir devant Dieu tel que nous sommes sans que ça sous-entende que hey, Dieu, il se ferme les yeux sur mes péchés. C'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu, il nous accueille et certainement que ça va nous amener à continuer de se sanctifier dans notre propre vie. Mais Dieu, il nous accepte tel que nous sommes. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Parce qu'en Jésus-Christ, on est devenu un. Quel type d'accueil est-ce qu'on témoigne envers notre prochain à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment Jésus accueillait les gens à son époque? La Samaritaine? La femme prise en adultère? Les enfants? Même les pharisiens comme Jean 3, là, Nicodème? Jésus a accueilli ces gens-là. Zachée! T'es allé manger chez Zachée? Sachez que c'est chez Zachée que Jésus a logé. Hein, vous réessayerez ça tantôt. Ces gens-là, ils se sentaient comment dans la présence de Jésus? C'était des pécheurs, c'était des gens de mauvaise vie, c'était des gens qui certainement avaient besoin d'être libérés de leurs péchés, mais Jésus les accueillait. Philémon, tu vas l'accueillir comment, Onésime? Qui tu vas ressembler? Est-ce qu'on peut accueillir les gens tels qu'ils sont? Est-ce qu'on reçoit comme Jésus reçoit? Jacques, il disait, il le dit encore dans son épître, de ne pas faire de favoritisme. Qu'il y ait un pauvre ou un riche qui rentre dans votre assemblée, faites pas de favoritisme. On va pas dire à un riche, viens t'asseoir, et on, nous autres, ça va être plus en arrière, là, là-bas, là, ça c'est les places privilégiées. Viens t'asseoir à la place privilégiée, puis on va dire à celui qui semble de plus modeste, ben tiens, viens t'asseoir à les places moins intéressantes. Jacques, il nous met en garde d'agir de la sorte. Dieu nous met en garde d'accueillir comme lui accueille les gens. Tends la main à la place de rejeter. Tombe 3. Plus on avance, plus ça nous sollicite. Mais tendre l'autre jour, c'est pas pire aussi, là, ça sollicite pas mal, là. Tendre la main, c'est le symbole d'accueillir, hein? D'être vraiment, reçois-le comme moi-même que Paul y disait, si je suis ton ami. Ça veut dire qu'il y a un engagement de cœur, là. Ça veut dire que, attends un petit peu, là, si je constate maintenant Onésime, qui m'a trompé, qui m'a lésé, qui m'a trahi, puis il veut qu'en lui, je vois mon ami Paul, je vais l'accueillir comment, Paul? Paul vient de me dire, prépare-moi une chambre. Je vais-tu faire la même chose pour Onésime? Attends un petit peu. Mais Paul est en train de le dire, accueille-le comme moi-même. Tombe 3. Tends les bras. Ce symbole, même dans notre société, où on peut plus que même accueillir et manifester un pardon. Manifester une étreinte qui symbolise un amour que Dieu a eu pour moi et que j'ai pour mon prochain. De tendre les bras. Ressembler à Jésus quand vient le temps de pardonner. On a lu les versets 17. Regardez, on va recommencer au verset 17 jusqu'à 19. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Imaginez, là, Philémon, qui a plusieurs esclaves. Onésime n'était pas son seul, là. Je vais le traiter comment, Onésime? Tout le monde le regarde, Philémon, là. Tout le monde va regarder à qui il va ressembler dans cette circonstance-là. En plus, il reçoit l'Église dans sa maison. Les autres serviteurs regardent Philémon aussi. Il va agir comment? Si Philémon se dit, OK, je fais comme si c'était rien passé. Mais les autres serviteurs, ça aurait pu être tentant pour eux de dire, hey, on va aller prendre une petite escapade, moi aussi. Puis m'en revenir quand j'aurai envie de revenir, il va toujours agir de la sorte. Puis si Philémon avait agi comme fort probablement il aurait pu, mais il aurait pu user de justice, même sévèrement, envers Onésime. Puis là encore, est-ce qu'elle allait compromettre son témoignage de comment est-ce qu'elle allait agir avec Onésime? Paul est en train de lui donner une troisième option. Ce qu'il te doit, mets-le sur mon compte. Je m'y engage et je l'écris de ma propre main. Je vais le payer. Quelle belle image de ce que Dieu fait avec nous, hein? Le payer pour notre dette. Il a payé pour qu'on soit libéré de notre dette de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je peux pas payer pour ça. Jésus pouvait, par exemple. Jésus pouvait payer pour cette dette-là. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, ça change quoi pour nous que Jésus nous a libérés de cette dette-là? Que Dieu a dit, toute ta dette de tes péchés, je l'ai mis sur le compte du sacrifice de Jésus-Christ. Et tout est payé. Mais évidemment, il faut que je lui remette cette dette-là. Philémon, comment est-ce qu'il allait agir? Dieu l'a pardonné. Philémon, je disais tantôt dans cette introduction-là, où on peut imaginer un peu la vie de Philémon, sa vie a été transformée, sa perception de la vie a été changée. Et maintenant, le pardon qu'il a obtenu de Jésus-Christ, est-ce que ça va transparaître dans sa vie? Est-ce qu'on ressemble à Jésus-Christ en ce qui concerne le pardon? Ça devrait. Tournez avec moi dans Matthieu 18. Vous connaissez l'histoire, je suis convaincu. Sinon, vous allez la connaître. Matthieu 18. Verset 21. Pierre, il s'approche de lui, de Jésus, puis lui dit, « Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois? » Hein, Pierre, il dit, « Hey, jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. » Quelque chose, là. Quand je suis trompé, quand je suis trahi, quand j'ai reçu cette souffrance, cette douleur-là ou ce préjudice-là de la part de mon prochain, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à pardonner? Puis Jésus est en train de dire d'avoir cette attitude de pardon. Il va compléter avec une histoire que je vais vous résumer parce que ça va jusqu'au verset 35. Jésus, il dit, c'est un homme qui était un esclave puis qui devait beaucoup d'argent à son maître. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parlais des talents. Un talent, c'est 6 000 deniers. Un denier, c'est une journée de travail. Alors, un talent équivaut à 6 000 jours de travail. Alors, cet esclave-là, il devait 10 000 talents à son maître. 60 millions de deniers ou de jours de travail. Pas pire dette, hein? Et puis là, son maître lui fait venir, demande des comptes, puis dit là, c'est assez. Je te vends toi, je te vends ta femme, je vais vendre tes enfants, je vais prendre le petit peu d'argent que je vais avoir, puis je vais me débarrasser comme ça. Ça va être fini comme ça. Puis là, ce serviteur-là commence à supplier son maître, à dire, fais pas ça. Imaginez le serviteur qui va pas être revendu, fort probablement pas, avec tous les membres de sa famille, là. Ils vont probablement être dispersés, puis probablement vivre beaucoup cette souffrance-là associée à la dette qu'il devait. Puis là, il dit, le serviteur se jetant, je suis au verset 26, à terre, se prosternant devant lui, il dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. 60 millions de journées, ça demande beaucoup de patience pour tout payer. Ému de compassion, verset 27, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Tu n'auras pas besoin de travailler toutes ces journées-là, puis je ne vendrai pas tous les membres de ta famille. La première requête de ce serviteur-là, c'est « Laisse-moi travailler, garde-nous ensemble, vends-nous pas ». Je veux rester même sous ta direction en tant que maître. Puis je vais travailler. Puis je vais te rembourser. Puis le maître, ému de compassion, il l'a laissé aller. Puis il lui a remis toute sa dette. Les 10 000 talents. Après qu'il fut sorti, verset 28, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. On a 60 millions de deniers comparativement à 100 deniers. Ce serviteur-là à qui la dette a été remise, il voit son compagnon qui, lui doit 100 deniers, puis il pogne au collet, puis il dit « paye-moi tout ». Puis tout de suite. Puis là, son compagnon, verset 29, se jetant à terre, le suppliait, de la même façon que lui a fait, disant « aie patience envers moi et je paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Selon la première requête du serviteur, « Laisse-moi travailler, puis je vais tout payer. » Tu voulais tout payer, mais tu vas tout payer. Le maître n'a pas dit, « Je vais revendre, je vais te vendre, je vais vendre ta femme, je vais vendre tes enfants, mais je vais te livrer au bourreau, puis tu vas travailler. » Verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Voici l'enseignement que Jésus vient de donner à Pierre, vient de poser la question, « Comment je devrais mettre en pratique le pardon? » Dieu m'a tellement pardonné. Comment moi je vais pardonner? Éphésiens 4, 32 dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. » Ce 10 000 talents-là équivaut à cette dette que Dieu nous a remise quand il nous a sauvés. Ces 100 deniers-là, c'est probablement la pire offense qu'une personne peut me faire comparativement à l'offense que moi j'ai faite envers Dieu. Quelle est mon attitude de pardon dans ça? Paul lui dit, « Si tu dois quoi que ce soit, mets-le sur mon compte, puis je vais le payer. » Tombe 1, tends la joue. À place de se venger. Tombe 2, tends la main. À place de rejeter, accueille-le. Tombe 3, tends les bras. Voici les images de ce que Dieu nous donne pour qu'on lui ressemble. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que humainement, mon cœur est assez bon pour vraiment avoir le goût de faire ça? J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Dieu me vienne en aide. Quelle attitude est-ce que j'ai face à Dieu? De lui demander son aide, que sa grâce me suffit à tous les jours. Il y a des circonstances comme ça où on a l'impression que humainement, c'est impossible que je pardonne. Humainement, c'est impossible que je me réconcilie avec ce frère-là en l'accueillant. Humainement, c'est impossible que je vais lui tendre la joue une autre fois. Comment je ressemble à Christ dans ces circonstances-là? Il me reste deux minutes. Tombe 4. Que j'ai intitulé « On pousse le bouchon ». Puis j'ai bien dit « le bouchon ». Jésus, là, c'est le maître. Jésus, c'est Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, on l'appelait maître. On l'appelle encore maître aujourd'hui. Même dans son humiliation, les gens qui comprenaient que ce que Jésus était le Fils de Dieu l'appelaient Maître. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, le Maître, à un moment donné, au dernier repas avec ses disciples, a enlevé son vêtement, puis a pris l'image du plus bas serviteur qu'il peut y avoir. Il a pris une serviette, puis a commencé à laver les pieds de ses disciples. Incluant Judas, incluant Pierre, qui allait le renier. Jésus qui a lavé les pieds de Judas. Quelle est mon attitude dans l'amour envers mon prochain? Jésus dit, vous m'appelez maître, puis vous faites bien, parce que je le suis. Mais je viens de vous laisser un exemple. C'est à plus forte raison, moi qui est maître, qui vous ai lavé les pieds, moi qui est Dieu, qui vous a lavé les pieds, où j'ai manifesté le comble de mon amour pour vous. À bien plus forte raison, est-ce que vous allez le faire les uns pour les autres? On pousse le bouchon. Si Jésus le fait, je devrais le faire. Philémon, il ouvre la porte, puis il voit son serviteur Onésime, qui l'a trompé, trahi, lésé, volé. Philémon est le maître. Onésime, c'est l'esclave. On n'a pas la suite des choses. Mais comment Philémon allait traiter Onésime? Lui, le maître, envers son serviteur, son esclave. Est-ce que Philémon est allé lui préparer un lit? Puis dire, regarde, j'avais fermé ta chambre, je vais te préparer un lit. Puis par amour pour son serviteur, il l'a servi. Paul est encouragé, Philémon, on l'a lu tantôt, verset 12, « Reçois-le, lui, une partie de moi-même. Moi, j'aurais désiré le garder pour qu'il me serve, mais je te le renvoie. Mais je veux rien faire sans ton avis, afin que ton bien soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Puis là, dans le verset 15 et 16, il rappelle à Philémon, c'est plus un serviteur. Oui, il va continuer de jouer le rôle d'un serviteur, mais c'est un frère. Et entre frères et sœurs, la manifestation de l'amour, c'est dans le service. Comme ce que Jésus nous a témoigné. Comment est-ce qu'on se comporte dans la vie de tous les jours pour ressembler à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces moments-là encore plus difficiles? On va terminer par un dernier chant, puis j'aimerais inviter l'équipe à s'avancer. Comment ressembler à Jésus dans chacune des situations de nos vies? Pendant que l'équipe s'avance, va s'installer, j'aimerais qu'on baisse nos têtes, qu'on ferme nos yeux. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Puis j'aimerais que vous laissiez Dieu mettre le doigt dans votre vie. Est-ce qu'il y a des circonstances où tu as été trompé? Peut-être que tu as été lésé, trahi. Est-ce qu'il y a une circonstance où tu dois tendre l'autre joue? Ou tendre la main pour accueillir ton prochain? Est-ce qu'il y a des circonstances où Dieu est en train de te montrer que tu devrais tendre les bras? Du moins que dans ton cœur, tu puisses pardonner et avoir cette attitude de pardon. Est-ce qu'il y a une situation où Dieu te montre que pour lui ressembler, tu dois manifester cet amour-là envers ton frère, ta sœur, ton prochain? Seigneur, on vient devant toi en s'humiliant. Toi, tu nous as tendu l'autre jour. Toi, tu nous as tendu la main pour nous accueillir. Toi, tu nous as tendu les bras pour nous pardonner. Et tu es même venu à notre service. On veut te dire merci, Dieu, pour ça. Notre reconnaissance ne sera jamais à la juste valeur de tout ce que tu as fait pour nous. Dieu, j'ai eu la misère à imaginer comment est-ce que je vais pouvoir te ressembler dans cette circonstance-là parce qu'elle me fait mal. Mais je ne veux pas ressembler au monde, je veux te ressembler à toi. Je veux agir comme tu me demandes d'agir. Viens-moi en aide. Prends cette souffrance-là que j'ai et viens-moi en aide à agir comme tu le désires. Merci Dieu pour ta parole. Merci pour ces vérités que tu nous as communiquées à travers l'épître à Philémon, qui est ta parole. Il nous parle encore aujourd'hui. Viens faire une différence dans nos vies. Dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.